La confirmation de l'inéligibilité de Philippe Gomez et de Philippe Michel, le Conseil d'État a rejeté les recours intentés par les deux élus de Calédonie Ensemble, condamnés dans l'affaire des emplois fictifs à la province sud. Une nouvelle charte pour le FLNKS qui est réunie à Ponériouin. Il a été ouvert par le discours de Christian Théin qui réclame la pleine souveraineté avant 2027. La dernière édition du Rex Contest, le concours de danse réunit plus de 120 participants. Les danseurs performent encore ce soir sur différents styles musicaux. L'actualité en métropole, à l'Assemblée nationale, les députés poursuivent l'examen du budget de la sécurité sociale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu suit les débats de très près. À l'international, l'administration Trump a émis un document sur sa stratégie de défense nationale. Le sport avec du handball, Suzanne Wajoka et l'équipe de France affrontent l'Argentine la nuit prochaine. Objectif, quart de finale du championnat du monde. Et puis sur le territoire, clap de fin ce soir pour l'Open international de squash BNP Paribas. Un tournoi en hommage à Enzo Corigliano. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, la confirmation de l'inéligibilité de Philippe Gomez et de Philippe Michel. Nous vous l'annoncions ce matin, le Conseil d'État a rejeté les recours intentés par les deux élus de Calédonie Ensemble. Je rappelle qu'ils avaient été condamnés dans l'affaire des emplois fictifs à la province sud, Michael Juneski.
À des faits remontant à la période 2014-2018. En juillet dernier, Philippe Gomez et Philippe Michel avaient été condamnés par le tribunal correctionnel de Nouméa à des peines respectives de 4 ans et de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, ainsi qu'un aménagement de peine sous bracelet électronique. Ils avaient aussi écopé de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Cette procédure d'inéligibilité avait toutefois été suspendue après le recours qu'ils avaient formé devant le Conseil d'État. Ce recours a donc été rejeté aujourd'hui. Le Conseil d'État décide également qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Philippe Gomez. Ces décisions doivent maintenant être notifiées aux deux requérants, au commissaire Jacques Billon et à la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou. C'est le commissaire qui devra signifier à Philippe Gomez et à Philippe Michel leur démission d'office des institutions dans lesquelles ils siègent, c'est-à-dire la province sud et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On rappelle que les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont convoqués dès lundi au boulevard Vauban pour donner un avis sur le projet de loi qui organise la consultation anticipée des Calédoniens sur l'accord de Bougival. On ne sait pas encore si Philippe Gomez et Philippe Michel pourront siéger à cette occasion ou si leur inéligibilité sera déjà effective.
L'actualité politique, toujours avec le FLNKS qui est réuni en congrès extraordinaire à Ponériouin. La réunion du Front indépendantiste a été ouverte par le discours de Christian Théin, le président du FLNKS, revenu cette semaine de métropole après un an et demi de détention provisoire et de contrôle judiciaire strict. C'était dans le cadre de l'enquête sur les commanditaires présumés des exactions de 2024. On écoute Nicolas Legrand.
Collier de fleurs autour du cou, debout, face au public, Christian Théin a d'abord évoqué sa nomination à la tête du FLNKS. Il raconte avoir été triste lorsque sa compagne lui a appris la nouvelle au parloir. Il déclare qu'il ne savait pas, je cite, « comment manœuvrer depuis sa cellule » et qu'il était difficile de travailler avec les chefs d'inculpation qui reposent sur lui. Puis Christian Théin a évoqué l'actualité politique et la signature le 12 juillet dernier de l'accord de Bougival. Il n'est pas revenu sur sa présence auprès de la délégation indépendantiste en juillet, mais il a rappelé la position du FLNKS actuellement, à savoir le rejet pur et simple du texte, et il a appelé à l'unité face à ce qu'il qualifie d'un énième passage en force de l'État.
Aujourd'hui, il faut que nous soyons collectivement à la hauteur de l'enjeu, parce que nous nous sommes réunis ici à Nembaï, dans un moment décisif de notre histoire. La période que traverse notre pays est grave. La Kanaky a vécu des heures sombres l'an dernier, qui malheureusement ont ravivé les traumatismes de l'histoire du peuple kanak. Et depuis plusieurs mois, l'État a tenté d'imposer contre nous cette volonté clairement exprimée, le projet d'accord de Bougival. Cet énième passage en force qui nie nos droits politiques les plus fondamentaux et qui ravive les blessures de notre peuple et met en lumière la fragilité du dialogue. Ce déni colonial, cette violence qui pèse encore sur notre peuple doit être stoppée une bonne fois pour toutes.
Christian Théin affirme que le FLNKS est ouvert au dialogue si et seulement si il s'agit de parler de pleine souveraineté.
Le FLNKS demeure ouvert au dialogue dans un cadre clair avec une méthode définie au préalable. L'État français doit retrouver sa posture de neutralité qui a prévalu dans les accords de Matignon et de Nouméa. La France a la responsabilité d'achever la décolonisation de notre pays. L'injustice de la colonisation doit être réparée par la justice de la décolonisation. Ce dialogue doit se situer à la hauteur des réalités politiques de ce pays. Il doit porter exclusivement sur les modalités de l'accession à la pleine souveraineté et des possibilités de future indépendance. Nous refusons toute souveraineté fictive, diluée ou partagée qui prolongerait sous d'autres noms la domination coloniale. Un accord acceptable doit tracer clairement le chemin vers la pleine souveraineté et doit fixer une date effective d'indépendance avec des élections, avant les élections présidentielles de 2027.
Et si l'État refuse, alors le FLNKS décrétera unilatéralement l'indépendance.
Si le dialogue échoue, nous prendrons nos responsabilités en usant de notre droit à l'autodétermination fondée par la déclaration de l'octroi à l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Conformément au droit international, notre peuple pourra acter lui-même son statut en proclamant la souveraineté de Kanaky dès que possible. Nul ne peut confisquer ce droit inné et actif du peuple colonisé à l'indépendance.
À la fin de son intervention, Christian Théin, le président du FLNKS, a évoqué la place de la jeunesse.
La jeunesse demeure au cœur de nos préoccupations. Elle a montré sa capacité d'engagement, parfois jusqu'au sacrifice, et rappelle à chacun de nous que l'injustice sociale n'est pas une fatalité. Il est de notre responsabilité de garantir à chaque jeune de ce pays une formation, un emploi, une place dans la construction de la Kanaky souveraine.
Pour Christian Théin, je cite, le processus de décolonisation touche à sa fin et il appelle les participants à en assumer la dernière étape avec sang-froid, courage et détermination. Après avoir ouvert ce 46e congrès, les représentants des partis ont signé la charte du FLNKS. Son contenu n'a pas été dévoilé. Signalons tout de même que Christian Théin l'a signé pour le FLNKS, Dominique Fauchy pour l'Union calédonienne, Marie-Pierre Goyetch pour le Parti travailliste, Omer Anesline pour la dynamique autochtone, Jean-Marie Ayawa pour la DUS, Arnaud Cholet et Akava pour le MOI, Aloysio Sacco pour le RDO, Henri Juny et Ariel Tutugoro pour le syndicat CNTP. Et après cette signature conclue par une coutume entre le dernier président du FLNKS, Roch Wamitan, et l'actuel Christian Théin, les travaux ont débuté réellement à huis clos par un point dédié à l'actualité politique. Aponé Riouin, Nicolas Legrand, RRB.
Et les travaux de ce congrès extraordinaire du FLNKS qui se poursuivent donc du côté de Ponériouin. Le feu qui ravage l'île des Pins continue de prendre de l'ampleur. 2350 hectares de végétation sont déjà partis en fumée depuis lundi après-midi. Aujourd'hui, c'est sur le nord-est de l'île que les pompiers sont activement mobilisés car les vents forts ont ravivé les flammes au cours de la nuit dernière. Depuis ce matin, le front de flammes s'est étendu. L'incendie menace même des habitations au nord de l'île des Pins, mais des renforts s'activent à protéger la population. Les précisions du capitaine Laurent Thomas, officier de permanence de la DSCGR, la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques.
25 à 30 nœuds de secteur sud-est sur le chantier qui sévit actuellement sur l'île des Pins. Donc c'est toute la partie droite du chantier qui sévit. Sur un axe nord-sud, on a le front de flamme qui s'est étendu de 1 km. Donc on a 5 km de front de flamme et qui se rapproche de la route municipale numéro 3. Donc près de la tribu de Touété. Donc on a de nombreuses poches d'habitation. Actuellement, on a un établissement de grande longueur pour aller casser vraiment cette tête de feu à l'extrémité droite du chantier. Un établissement de 600 mètres pour justement éviter qu'il impacte des zones habitées. On a trois foyers extrêmement actifs, deux qui se dirigent vers une zone marécageuse au nord-ouest du chantier. Et c'est cette troisième foyer actif qui, lui, est le plus dangereux. Donc normalement, il devrait être neutralisé d'ici la fin, tombée de la nuit. Maintenant que le feu va se rapprocher de la route municipale numéro 3, il sera plus accessible au secours. Donc voilà, les prochains jours vont être longs.
Je rappelle que le dispositif Orsec de niveau 2 est toujours actif. Une cinquantaine de pompiers de la sécurité civile et de la mairie sont mobilisés, aidés par le personnel de l'aérodrome et les habitants de l'île des Pins, ainsi que deux hélicoptères bombardiers d'eau. Au chapitre des faits divers, toujours des violences la nuit dernière à Montravel entre les forces de l'ordre et des jeunes du quartier. Trois barricades étaient en feu à Pierre-Lanquette. Les gendarmes ont été caillassés. Ils sont intervenus pendant plus de 2 heures, entre 23h et 1h30 du matin. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de grenades.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Vous continuez de répondre présent à notre appel du cœur pour Noël. Vous êtes déjà très nombreux à être passés à Radio Rythme Bleu pour déposer des cadeaux pour les enfants. Vous le savez, cela permettra que Noël soit vraiment une fête pour tous, y compris pour les familles qui rencontrent des difficultés et qui n'ont peut-être pas de quoi offrir des cadeaux à leurs enfants. Ce matin, Bastien est venu les bras chargés de cadeaux. Écoutez.
J'ai apporté des jeux de société, comme la course à l'héritage, des jeux d'Egnim, pour faire plaisir aux enfants qui n'ont pas de sous, parce que tout le monde peut avoir un Noël.
Est-ce que tu as un petit message pour eux?
Joyeux Noël à eux.
Merci, joyeux Noël à toi.
Merci.
Tous les cadeaux que vous apportez seront distribués aux familles, suivis par nos partenaires Secours catholique, Croix-Rouge, Société Saint-Vincent-de-Paul. Il reste encore 2 semaines pour continuer cette collecte du cœur. Vous pouvez passer, déposer vos cadeaux à la radio chaque jour, week-end compris, entre 7h et 19h. Et vous pouvez aussi les déposer au magasin Petit Dôme, route de Lanzvata, qui nous accompagne depuis 12 ans déjà. La 31e édition du Téléthon sur le territoire a débuté ce matin depuis 8h et jusqu'à 22h aujourd'hui. Comme demain, des bénévoles sont mobilisés dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. L'OPT a mis à disposition ses moyens techniques pour permettre la collecte de promesses de dons au 36-37. Mireille Lévy est la responsable du centre de promesses.
Cette année, le Téléthon reprend sur le territoire. Il y avait eu une petite pause l'année dernière à cause de ce qui s'était passé. Mais on compte évidemment sur tout le monde, comme d'habitude, pour faire le 36-37 et faire une promesse de don pour le Téléthon. Alors, il y a à peu près une dizaine de personnes centralisées sur le centre de promesses pour répondre au téléphone, au 36-37. On demande déjà tous les renseignements de la personne pour pouvoir envoyer leur promesse de don par voie postale. Bien souvent, les gens nous remercient de notre action, de notre mobilisation. Et voilà, c'est assez bref quand même parce que le téléphone sonne assez souvent et il ne faut pas perdre de temps non plus. Donc on raccroche vite pour attraper la personne suivante.
Et je rappelle qu'une fois de plus, le numéro de téléphone pour faire une promesse de don au Téléthon, c'est le 36-37. Des bénévoles sont mobilisés aujourd'hui et demain de 8h à 22h. C'est un concours qui a fait danser les Calédoniens pendant 17 ans. La dernière édition du Rex Contest se déroule cet après-midi à Nouméa. L'événement marque également la fermeture, Charlotte Coulson, du célèbre établissement culturel.
C'était un lieu qui faisait vivre et bouger la jeunesse calédonienne et qui le fait toujours, du moins jusqu'à la fin de la saison 2025. Elle n'est pas tout à fait terminée et ça, le public l'a bien ressenti cet après-midi. Entre la K-pop, le hip-hop, la danse contemporaine ou même la danse classique, la scène vibrait sous les pas de près de 120 danseurs, amateurs comme professionnels.
Angoissant, très stressant, mais quand on était dedans, c'était à l'aise.
Moi aussi, j'ai vraiment pris du plaisir, même s'il y a eu quelques fautes, mais en vrai, on a bien géré. On est vraiment contente du résultat et en plus qu'on a gagné un prix, on est troisième. C'est la première fois qu'on participe au Rex Contest, donc oui, ça nous marque. Ouais, voilà. Et en plus, on s'entraîne tous les jours au Rex. À chaque fois qu'on a des événements, on s'entraînait ici, donc ça nous marque quand même un peu.
Ça va nous manquer.
Il s'agit donc de la dernière édition du Rex Contest, car l'établissement culturel va fermer ses portes. Mais l'esprit du Rex, lui, continuera d'exister, peut-être ailleurs, selon Nadège Lagneau, déléguée générale de l'ADAMIC, l'association en charge de la gestion du Rex Nouméa.
C'est toujours un moment important, c'est pour saluer un petit peu ce concours qui a été créé par Enzo Fab, qui a réussi à faire perdurer ce concours jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour déjà saluer ce projet qui a permis à 1 millier de jeunes de pouvoir se montrer sur scène. Et les lieux changent, mais la dynamique, elle reste. Et puis, c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir. Donc on est très optimiste par rapport à ça.
Le Rex Contest se poursuit ce soir à 19h30. Les groupes confirmés et les duos professionnels performeront. Le Rex Nouméa fermera quant à lui ses portes le 20 décembre.
La direction d'Imbéa à présent, où les habitants de la commune sont plongés dans l'ambiance de Noël aujourd'hui. Plus de 70 exposants sont réunis depuis ce matin sous les halles de d'Imbéa Centre. Entre les fruits et légumes, il y a de quoi trouver des cadeaux pour les fêtes de fin d'année. C'est l'occasion pour les artisans de faire un bon chiffre d'affaires. Certains l'ont bien compris et savent surfer sur la tendance.
En fait, on s'est lancé par rapport aux enfants. On s'est lancé dans tout ce qui est animé et manga. Du Pokémon, Naruto, on a du Stitch, du One Piece, on a Dragon Ball Z, des Labubu, Hello Kitty. Aujourd'hui, on a des boîtes à crayons, des boîtes de rangement, des pendules, des petites lanternes, des lampes de bureau. Tout est fait ici. Les marchés à thème, ou même qu'il y a toute l'année, quand il y a des thèmes bien précis, c'est quand même des marchés qui marchent mieux. Ouais. Noël, ça marche bien aussi.
À 15h, les jeunes ont pu rencontrer le Père Noël en personne. Le marché reste ouvert encore une heure, jusqu'à 19h ce soir. Et les marchés de Noël, c'est aussi à Nouméa. Demain encore, les artisans calédoniens vous attendront au Quai Ferry, Charlotte.
Le plus grand Noël tropicalo délirant du Tropical Market et l'association des métiers d'art calédoniens des Quai Ferry se poursuit. Les visiteurs trouvent sur place près de 50 artisans qui exposent leurs créations faites main. Les exposants vous attendent de nouveau demain de 9h à 17h30.
À Lanzvata aussi, si les Calédoniens peuvent faire leur dernière course de Noël.
L'occasion de rencontrer plus de 30 exposants et de découvrir un événement mêlant créations artisanales, animations pour petits et pour les grands. Le marché reste ouvert demain de 9h à 17h30 au complexe de la promenade de Lanzvata.
Et on reste du côté de Lanzvata avec la maison du Père Noël qui ouvre ses portes ce soir.
Et comme chaque année, les propriétaires Michel et Raymond Martin ont décoré leur maison, l'intérieur comme l'extérieur. Et pour cette 34e année, les époux Martin ont décidé de mettre à l'honneur les lutines et les lutins du Père Noël de toutes les tailles, dans différents décors, sans oublier les personnages de dessins animés. Les précisions de Michel Martin.
Cette année, moi j'ai souhaité mettre l'accent sur les lutins qui ont un grand rôle à jouer auprès du Père Noël dans la préparation des cadeaux. Le Père Noël en a déjà sur ses genoux, il y en a encore deux autres qui sont présents près de lui et qui vont aider aussi à la préparation des cadeaux. Donc les enfants seront ravis de voir que tout est prêt pour le soir de Noël. Alors à l'extérieur, j'ai prévu de faire un décor avec des peluches de Walt Disney. Je me suis axée sur les personnages de Walt Disney, avec Mickey, avec Minnie, avec enfin tous ces personnages-là qui seront présents. J'ai aussi un décor extérieur. Alors là, c'est pareil, ça va être un décor avec le manège de Walt Disney, avec des personnages animés, bien sûr. Je pense que ça va beaucoup plaire aussi. C'est une passion que l'on fait partager à tout le monde. J'adore faire la décoration, mon mari s'occupe de la partie électricité, et tout ça, eh bien, on invite tout le monde à venir voir un peu le travail qui est fait. Beaucoup de choses ramenées de voyage, des choses aussi qui ont été confectionnées ici, hein. Beaucoup, beaucoup.
La maison du Père Noël, elle est située aux deux rues Pasteur Béninus à Lanzvata. Elle ouvrira ses portes ce soir, donc à 18h30 jusqu'à 22h et cela jusqu'au 30 décembre.
Et enfin, les petites sœurs des pauvres et les bénévoles organiseront demain leur grand marché de Noël dans leurs locaux du côté du Faubourg Blanchot.
Les visiteurs trouveront sur place des stands de 10h à 15h, des plats culinaires traditionnels, des idées cadeaux, des animations pour tous les âges et une tombola exceptionnelle avec de nombreux lots à gagner. L'occasion de partager un moment convivial et de soutenir les petites sœurs des pauvres. Les précisions de sœur Marianne, mère supérieure des petites sœurs des pauvres.
C'est comme une petite kermesse. Ce n'est plus possible pour nous d'organiser les grandes kermesses. Donc on a pensé à cet événement juste quelques semaines avant Noël où nous allons avoir des animations, des danses, de la musique. Nous allons avoir beaucoup de nourriture à vendre. Et puis aussi des jouets et des travaux des personnes âgées. Des belles choses qui font des très jolis cadeaux de Noël. Et aussi qui donnent l'occasion aux personnes qui n'ont pas visité la maison depuis longtemps de revenir visiter encore. C'est pour le bien de la maison. Nous avons des projets. Par exemple, on a un projet on avait besoin de changer des gouttières. Donc, on est en train de récolter des fonds pour ça. Aussi d'autres travaux de la maison qui demandent l'argent.
Le grand marché de Noël des petites sœurs des pauvres, c'est demain de 10h à 15h dans leurs locaux du Faubourg Blanchot.
La Nouvelle-Calédonie retrouve sa place sur la scène du Zénith d'Amiens. Juliette Collet s'est envolée il y a un mois déjà pour la métropole où elle y prépare l'élection Miss France 2026. Le spectacle Charlotte est à suivre en direct demain matin à partir de 7h10 sur Calédonia.
Juliette Collet, elle a tout juste 23 ans. Elle est diplômée d'un master en gestion des risques. Elle est sauveteuse nageuse. Elle est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup, mais il y a encore de la place pour Miss France 2026. Et justement, la Miss Nouvelle-Calédonie se prépare depuis un mois déjà en métropole pour l'élection qu'elle attend avec impatience.
Comment ça se passe? On fait des entraînements physiques? On fait de la danse de 8h à 20h. On commence par du gainage, des pompes, des abdos et du renforcement musculaire tout simplement. Et ensuite, on danse en talons de 8h à 20h. C'est très intensif puisqu'on est 30 femmes à ne pas être danseuses et on apprend une dizaine de chorégraphies. Donc c'est très intense et pour autant, on prend plaisir à le faire. J'ai envie que les gens soient fiers de la Miss qui les représente cette année. Donc, c'est pas une pression, mais je suis un peu excitée à l'idée d'être sur scène et de vivre toutes ces émotions. C'est pas un stress, mais un petit peu les papillons dans le ventre. Et si on se trompe, et comment on va faire si je tombe, et si je gère pas le discours, etc. Voilà, toutes ces questions qui me passent par la tête, mais sinon j'ai hâte, oui.
Le rêve de Juliette Collet, si elle est élue Miss France 2026, visiter et documenter les spécificités de toutes les régions de France. Elle-même a grandi entre Tours et la Provence. Et ce mélange sera d'ailleurs mis en avant sur scène demain matin, car les Miss défileront dans leur tenue régionale. Même si elle doit garder le secret, Juliette Collet nous a dit quelques mots sur sa robe.
Cette robe s'appelle Poiwe, donc c'est mon prénom en langue chémouie. Cette tenue, je suis extrêmement fière de la porter. Ma créatrice s'appelle Margaret. Le message qu'on cherche à faire passer au travers de cette robe, c'est vraiment la transmission intergénérationnelle. Donc, il y a une pièce qui représente nos anciens. Elle parle notamment des grands-mères. Et l'autre côté de la tenue, ce sont des feuillets qui sont interposés, qui mettent en avant toutes les générations suivantes auxquelles les grands-mères ont transmis des choses, notamment le fait de tresser. En plus de ça, elle a utilisé du matériel brut, du matériel travaillé. Donc, elle a brodé certaines choses, elle a brossé certaines choses, elle a tressé d'autres choses. C'est une véritable tenue de reine, j'ai l'impression.
Et sachez qu'il est possible de soutenir Juliette Collet depuis la Calédonie. Demain, lors de l'élection, nous découvrirons les 12 candidates présélectionnées par le jury Miss France. Si Juliette Collet en fait partie, un numéro lui sera attribué. Vous pourrez alors envoyer ce numéro soit par SMS au 72 500 ou par téléphone au 36 80. Le 72 500 ou le 36 80. Ne manquez pas l'élection qui sera diffusée en direct à partir de 7h10 sur la chaîne Calédonia.
Merci beaucoup Charlotte. 18h passées de 6 minutes. On marque une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et internationale.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Il est 18h07 sur Radio Rythme Bleu, la suite de votre journal avec Léo Fichou.
L'actualité en métropole, à l'Assemblée nationale, les députés poursuivent l'examen du budget de la sécurité sociale. C'est la partie dépenses qui est passée au crible, avec notamment la suspension de la réforme des retraites après l'adoption du volet recettes un peu plus tôt. Une première victoire pour le Premier ministre qui suit les débats de très près. Sébastien Lecornu a rappelé, juste avant le vote, l'importance d'adopter cette première partie du budget de la Sécurité sociale, mais aussi pour les débats à venir.
L'hôpital, la question des retraites, la question des soins de manière globale. J'imagine que certains vont vouloir revenir sur la question des retraites et que l'engagement du gouvernement depuis ma nomination, c'est que les débats puissent avoir lieu. Et donc je souhaite que cette P3 puisse être discutée démocratiquement.
Les députés étudient la deuxième partie consacrée aux dépenses et la question de la suspension de la réforme des retraites sera à nouveau débattue avant un vote final mardi. Si le texte est rejeté, il est alors envoyé au Sénat, sauf si le Premier ministre annonce finalement utiliser le 49-3 ou les ordonnances pour faire passer ce texte en force. L'actualité internationale à présent, l'administration Trump a émis un document sur sa stratégie de défense nationale, un document dans lequel elle anticipe l'effacement civilisationnel de l'Europe, un document élaboré périodiquement par la Maison-Blanche. La dernière version remonte à 2022. Cette fois, il recense les enjeux de sécurité pour les États-Unis et la façon dont l'administration Trump compte y répondre. Au cœur de cette nouvelle stratégie de sécurité nationale, le contrôle des frontières. William Molinier pour Europe 1.
Cette nouvelle orientation stratégique est très claire. L'ère des migrations de masse doit prendre fin, peut-on lire dans le document. Assez concis, une trentaine de pages. L'immigration incontrôlée met à rude épreuve les ressources nationales, exacerbe la violence et la criminalité, écrit l'administration américaine. S'attaquer en priorité à ces migrations qualifiées d'invasion permettrait d'atténuer d'autres menaces à la frontière comme le terrorisme, le trafic de drogue, l'espionnage ou encore la traite des êtres humains. L'exécutif américain considère qu'il s'agit là d'une question de survie pour les États-Unis en tant que république souveraine. Dans une dernière partie centrée sur les zones géographiques, trois pages sont consacrées à l'Europe, confrontée à la perspective d'un effacement civilisationnel pour pour les Américains. Plusieurs défis se posent aux Européens. Les politiques migratoires, la censure de la liberté d'expression, la répression de l'opposition politique, l'effondrement des taux de natalité ou encore la perte d'identité nationale et de confiance en soi. Si rien n'est fait, l'Europe serait aux yeux des États-Unis méconnaissable d'ici deux décennies.
Et puis un mot du chancelier allemand Friedrich Merz qui est ce week-end en Israël. Il effectue un premier déplacement officiel depuis son entrée en fonction. Au programme, une rencontre aujourd'hui avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour discuter des relations bilatérales ou encore du cessez-le-feu à Gaza. 18h10, seconde pause dans ce journal, on parlera sport juste après.
Savez-vous qu'il est préférable de ne pas dépasser de 8 degrés l'écart entre la température intérieure et la température extérieure ? Sachez aussi qu'une habitation bien isolée permet de gagner jusqu'à 5 degrés de température intérieure.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Il est 18h11 sur RRB, l'actualité sportive avec Léo Fichou.
Et à la une de l'actualité sportive, les sports mécaniques avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Le dernier Grand Prix de la saison, c'est à Abu Dhabi. Et tout reste à faire pour le titre de champion du monde des pilotes, Michael Juneski.
Un duel Norris-Verstappen jusque dans la dernière ligne droite. Ils sont à égalité en nombre de victoires. 7 victoires chacun cette saison. Et un très léger avantage pour Norris sur Verstappen de 12 petits points en tête du championnat du monde. L'affrontement a déjà commencé lors des essais libres. Comme lors de la première séance, Lando Norris a signé le meilleur temps de la deuxième séance devant Max Verstappen. Les pilotes McLaren et Red Bull qui vont donc batailler jusqu'à à la fin du week-end. Côté français, Isaac Hadjar, le futur coéquipier de Max Verstappen, s'est classé 7e. Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui avaient prêté leur monoplace à des rookies lors de la première séance, ont respectivement terminé 16e et 20e de la deuxième. À suivre ce week-end, les qualifications, ce sera ce soir à partir d'1h du matin pour nous. Le dernier Grand Prix de la saison, demain soir, le départ sera donné à minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Les sports collectifs avec du football et la suite demain de la 15e journée de la Ligue 1.
Et le FC Nantes toujours dans la tourmente à la 16e place qui accueillera le RC Lens. À l'inverse, les Lensois occupent la place de leader. Coup d'envoi de la rencontre à 3h. À 5h, Toulouse fera face à Strasbourg. Et à 7h05, le PSG, actuellement 2e du championnat de France, sera opposé au Stade Rennais qui est pour sa part 5e de la Ligue 1.
Sur les terrains de rugby, la suite de la première journée de la Champions Cup, des clubs français seront encore engagés ce soir et demain.
Dès minuit, les Clermontois seront sur la pelouse des Anglais des Saracens pour le compte de la poule 1. Dans la poule 3, le Stade Rochelais recevra, lui, d'autres Anglais, ceux de Leicester, à partir de 4h30. Dans la poule 4, pour les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles, tenant du titre, ce sera un déplacement sur le terrain des Blue Bulls à partir de 2h15. Yoram Moefana sera titulaire dans le 15 de départ.
Du handball avec le mondial féminin, les Françaises ont rendez-vous avec l'Argentine.
Deuxième rencontre du tour principal après la victoire sur l'Autriche 29-17. Et alors que les Françaises restent sur un sans faute en bonne voie vers les quarts de finale, avec notamment Suzanne Wajoka, la calédonienne, ailière gauche, qui est pour le moment meilleure marqueuse de l'équipe de France. Clarisse Méraud, arrière des Bleus, se méfie des joueuses de l'Argentine qui ont tenu tête aux Polonaises.
Pour les matchs qu'on a déjà vus, ça ne va rien lâcher en fait, du début à la fin. Donc ça va être des matchs qu'on ne doit pas prendre à la légère. Et de toute façon, on ne prend pas de match à la légère. Mais c'est sûr que ça va être encore un autre combat.
Le match des Françaises contre les joueuses de l'Argentine, ce sera donc demain matin à partir de 4h, heure de Nouméa.
En natation, le Calédonien Maxime Grousset disputera la finale du 100 mètres nage libre au championnat d'Europe en petit bassin. Il a réalisé le meilleur temps des demi-finales aujourd'hui en 45-65. Il a également décroché, je le rappelle, le titre sur le 100 mètres papillon en devançant d'un centième son meilleur rival, le Suisse Noé Ponti.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
En mode squash, à présent, c'est jour de finale sur le PNB Paribas Enzo Open de Dumbéa.
Oui, avec le Calédonien Nicolas Masnet qui a gagné la petite finale pour le bronze face au Samoan Mason Smales, médaillé d'or des derniers Océania de la discipline. Déjà face à Nicolas Masnet en finale, notre représentant qui s'impose en quatre manches éprouvantes, 12-10, 11-4, 11-6, 11-4. Réaction de Nicolas Masnet.
C'était un peu une revanche parce que c'est contre lui que je perds deux mois avant en finale des Océania là. Donc du coup, comme il est de Samoa, du coup, ben voilà, j'avais à cœur de faire quelque chose de bien ici à la maison, à domicile cette fois-ci. Et donc ouais, premier jeu vraiment compliqué, physiquement c'était assez dur pour moi. Et il le remporte au tie-break de justesse là. Et après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a peut-être baissé un petit peu de rythme au niveau physique. Et moi j'ai réussi à prendre l'opportunité, deuxième jeu serré. Et après voilà, j'ai senti qu'il baissait un peu l'intensité. J'ai su prendre ma chance et puis bah voilà, je m'en sors plutôt bien quoi. Comme beaucoup de sports, une fois que qu'on est dans le gratin entre guillemets local, bah, on a besoin de confrontation pour augmenter notre niveau. Et voilà, le fait d'avoir des tournois comme l'Open d'Enzo qui a été fait justement en hommage à Enzo, à qui j'envoie une grosse pensée. Bah voilà, ça nous permet nous de nous confronter à des meilleurs joueurs de la région, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Ça nous permet de nous jauger, faire le spectacle pour les spectateurs aussi et tout ça dans une bonne ambiance comme il y a toujours au squash. Avec une belle famille qu'on a quoi.
Et la grande finale oppose deux invités régionaux, le Britannique Jameson Freddy, résident en Nouvelle-Zélande, à Wills Dunley, joueur kiwi confirmé dans la salle de squash Enzo Corigliano de Dumbéa.
Un coup d'œil à présent aux autres résultats et rendez-vous du week-end sur le territoire.
Et en football féminin, la finale de la Coupe de Calédonie qui se joue actuellement au stade Noumadelel, le Jeou Atlético Club est opposé à l'AS Wetch. Le score était 1-0 en faveur de Wetch après 38 minutes de jeu. L'événement phare, ce sera à demain dimanche, la grande finale de la Super League de futsal à partir de 16h30 à la salle Omnisport de Lens-Vata. L'ASPTT sera opposé au FC Ferrand. À Marais, le Trail Air Calédonie se déroulait ce matin sur la course Rennes. Le grand raid de 20 km, c'est Thomas Toubulik qui s'est imposé en 1h49 et 10 secondes. Chez les dames, la victoire est revenue à Roxane Collin. Et en mer, le championnat de Calédonie de kitesurf freestyle a été reporté à demain sur la plage du Méridien. Du windsurf également avec le championnat de Calédonie de freestyle qui se déroulera à la Côte Blanche en marge de cette compétition. La CPV organisera la One Hour Classic en hommage à Mimi Berthomier ainsi que des portes ouvertes et un marché de la glisse à la base nautique de la Côte Blanche. Et puis de la natation avec tout le week-end à la piscine du CNC, les championnats de Nouvelle-Calédonie en bassin de 25 mètres.
Merci Mickaël. 18h16 après le sport, on parle météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Jennifer, bonjour.
Bonjour Léo, pas de vigilance particulière cette nuit. Une bande nuageuse et pluvieuse remonte sur Marais et l'île des Pins au début. Puis les nuages gagnent l'Ifou, la pointe sud et la côte est en donnant des averses plus fréquentes, localement modérées sur l'est. Ailleurs, le ciel se dégage progressivement et le temps est sec. En soirée, des rafales à 30 nœuds sont encore possibles sur le sud-ouest. Puis le vent mollit 10 à 15 nœuds. Sur le reste de la côte ouest, le vent s'établit autour de 10 nœuds. Ailleurs, l'Alizée souffle autour de 20 nœuds cette nuit avec quelques rafales à 30 nœuds. Les températures de la nuit sont comprises entre 17 degrés sur le sud-ouest et 24 degrés sur la pointe nord et Ouvéa. Demain matin, les nuages et averses glisseront sur l'est, Ouvéa et la pointe nord. Elles seront plus marquées sur le nord-est. Ailleurs, le soleil l'emportera largement. L'Alizée de sud-est soufflera généralement entre 15 et 20 nœuds, temporairement 10-15 nœuds au début sur le nord-ouest. Sur l'extrême nord-est et le sud-ouest, des rafales à 30 nœuds sont attendues dès la fin de matinée. Et un aperçu pour demain après-midi, une nouvelle bande nuageuse abordera l'extrême sud en donnant quelques ondées. Les nuages qui se formeront sur le relief seront plus imposants sur le sud. Ils donneront quelques averses qui gagneront localement les côtes. L'Alizée, lui, se renforcera sur une grande partie de la façade ouest avec 20-25 nœuds de sud-est et des rafales autour de 30 nœuds. Sur le nord-ouest et le reste du territoire, il soufflera entre 15 et 20 nœuds. Les températures seront stables, proches des normales de 27 à 32 degrés. Voilà Léo.